L'île de la vaniteuse. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. La vaniteuse. Astéroïde 326. J'ai eu tort de vieillir. Voilà. J'étais si heureux dans l'enfance. Pilote de guerre. Chapitre 11. Depuis de longues heures, je survole l'Atlantique. Toujours aucune trace de l'Amérique. Seulement, sous mes yeux, des confettis d'îles. Observer, à 35 000 pieds, cet archipel perdu dans l'océan me rend nerveux. Inexplicablement, car depuis mon départ de Marignane, j'ai piloté avec l'assurance d'un vétéran de l'aéropostale. Cette brusque angoisse au milieu du ciel, sans aucune raison apparente, m'intrigue. Heureusement, Andy n'a rien remarqué. Pour ne pas laisser cette inexplicable panique me gagner, j'interroge la détective apprentie. « Parlez-moi du petit prince. Pas du personnage, je veux dire. Du livre. Pourquoi diable Saint-Exupéry est-il allé l'écrire à New York ?» Andy étire ses jambes dans le cockpit. Elle a beaucoup dormi. On dirait une petite fille qui prend son mal en patience sur le chemin des vacances. J'ai l'impression qu'elle va me demander de m'arrêter à la prochaine aire de repos pour sortir trottiner. Oula ! C'est une histoire étrange. Je vous la fais courte. Il y a des piles de livres qui ont été écrits là-dessus. Saint-Exupéry se trouvait en exil à New York depuis janvier 1941. Il était déprimé par l'indifférence des Américains face à la guerre en Europe et désespéré par la division des Français, lui qui ne se rangeait dans aucun camp, mais cultivait une méfiance tenace envers De Gaulle. Saint-Exupéry errait dans Manhattan, entre les filles à aimer et les personnalités françaises à fréquenter. Toute une petite communauté exilée, auteurs, acteurs, artistes. À l'époque, Saint-Exupéry, grâce au succès de ses romans aux États-Unis, est sans doute le Français le plus connu en Amérique du Nord. Pilote de guerre, est même présenté outre-Atlantique comme la meilleure réponse des démocraties à Mein Kampf. Pour lutter contre le blues de son French writer, son éditeur américain, remarquant qu'il griffonnait un peu partout des dessins, lui propose d'écrire un conte pour enfants. Je force mon regard à se détacher des dizaines d'îles que je survole. Rien d'étrange pour l'instant. J'y viens, monsieur l'impatient. Saint-Exupéry se met au boulot. En gros, pendant l'année 1942, surtout l'été. Si son conte devait être édité en anglais, il l'écrit évidemment en français. Saint-Exupéry parlait très mal anglais. Mais au moment même où il rend son manuscrit, au début de l'année 43, il décide de repartir combattre pour la France en Afrique du Nord. Étonnant, non? Pourquoi partir risquer sa vie comme pilote de guerre alors qu'il joue à l'ambassadeur des abusés à New York depuis 2 ans et prendre cette décision juste avant la parution de son conte? Le 6 avril 43, jour de la sortie américaine du Little Prince, Saint-Ex navigue sur un bateau américain pour l'Afrique du Nord. C'est du moins ce que raconte Pierre Chevrier dans la première biographie de Saint-Ex publiée quelques années après sa mort. Andy marque un silence, comme si elle attendait une remarque de ma part. Pourquoi dites-vous « c'est du moins ce que raconte Pierre Chevrier » Ce n'est pas vrai? Personne ne sait. Vous pensez bien que l'agenda de Saint-Ex a été épluché sous toutes les coutures depuis. La plupart des témoignages prétendent que Saint-Exupéry se serait embarqué pour l'Afrique quelques jours après le 6 avril, donc après la parution du Little Prince. Mais pourquoi alors n'a-t-il emporté avec lui aucun exemplaire en anglais? Et pourquoi écrit-il à son éditeur, quelques semaines plus tard, du Maroc, qu'il ignore même si son Little Prince a été publié? En réalité, étonnamment, le doute persiste. Il était fiable, ce Pierre Chevrier? Tout dépend de ce que vous entendez par fiable. Pierre Chevrier, c'est un pseudo. Sous le nom de ce Pierrot se cache Nelly de Vauguet, la maîtresse parisienne de Saint-Exupéry. Celle dont les archives demeureront secrètes jusqu'en 2053? Ok, c'est plutôt louche. Mais on s'en fiche, non, de savoir si Saint-Ex est reparti à la guerre avant ou après que son livre soit publié. Andy paraît consterné. « Vous ne comprenez pas. si le récit de Pierre Chevrier, enfin celui de sa maîtresse Nelly, est vrai, ça signifie que Saint-Exupéry n'a pas eu le temps de contrôler la version finale de son livre. On sait qu'il a signé la page de garde de tous les premiers tirages américains, mais aucun The Little Prince ou Le Petit Prince n'a jamais été dédicacé par Saint-Exupéry, pas même à sa femme ou ses amis. Étrange, non ? Il n'a emporté en Afrique qu'une copie de la version originale en français. Le Petit Prince ne sera publié en France qu'en avril 1946, 3 ans après l'édition américaine, presque 2 ans après la mort de Saint-Exupéry. Grâce à l'enthousiasme de ma petite copilote, j'oublie les îles sous la carlingue. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous cherchez à me dire ? Andy cria en affolé toutes les boussoles du cockpit. Tout simplement que le livre le plus vendu au monde a été publié dans une version que son auteur n'a pas eu le temps de relire. Le texte officiel du Petit Prince n'est pas forcément celui que Saint-Exupéry aurait choisi. Sur les manuscrits originaux, son écriture est presque illisible. Saint-Ex multiplie les ratures, les coupures. Le texte officiel qu'on connaît est le résultat de choix, de modifications, d'interprétations entre plusieurs versions. Exactement comme la Bible. La Bible, rien que ça. Je calme le jeu. Le conte a été écrit en 1942, dis-je. Pas en moins 4000 avant Jésus-Christ. Et sur du papier, pas sur du papyrus ou des tablettes d'argile. Les feuillets originaux du Petit Prince doivent être plus faciles à déchiffrer que les manuscrits de la Mer Morte. Andy regarde l'horizon devant elle et sourit. Peut-être. À condition de savoir où chercher. Le seul manuscrit original connu du Petit Prince est exposé à New York, à la Morgan Library and Museum. Saint-Ex l'aurait offert, juste avant son départ pour l'Afrique, à une journaliste américaine, Sylvia Hamilton, sa maîtresse. Je sursaute. Encore une ? Il en avait combien comme ça ? Andy ne répond pas. Et cette copie du Petit Prince que Saint-Exupéry avait emportée avec lui en Afrique du Nord ? Aucune idée de ce qu'elle est devenue, avoue la détective. Nelly de Vauguet en a sans doute hérité. En Algérie, Saint-Ex la fera lire à quelques éditeurs pour essayer de le faire publier. Quand les éditeurs refuseront, surpris qu'un écrivain aussi sérieux que Saint-Exupéry ait écrit un conte pour enfants aussi niais, il leur répondra par ces mots « Sous les apparences d'un conte, il s'agit d'un testament seulement intelligible à quelques-uns. Un roman à clé qu'il y a urgence à publier car moi seul en connais l'importance. » Plutôt intriguant, non ? Elle sourit mystérieusement tout en dépliant la feuille qu'Okodolo lui a remise et la relit. Je demande avec une pointe d'ironie, et cette Mary Swan que nous devons rencontrer à Manhattan, encore une conquête de Saint-Ex ? Andy rougit cette fois. Impossible ! Ou elle aurait plus de 100 ans aujourd'hui. Mais Mary Swan est peut-être liée à Mary Signe Claudel. Encore un sacré prénom. C'est qui, cette Mary Signe ? La petite fille de l'écrivain Paul Claudel. Signe s'écrit avec un S, car son grand-père trouvait qu'un coup de signe ressemble plus à un S qu'à un C. Papy a raison, c'est incontestable. Et quel rapport avec Saint-Ex ? À son arrivée à New York, dès 1941, Saint-Exupéry va fréquemment venir dîner chez les Claudel. Il passera beaucoup de temps à jouer avec leur fille de 4 ans, Marie Signe. Pour elle, chaque soir, il inventera des histoires et griffonnera des dessins sur des morceaux de papier. Un boa avalant un renard, une étoile. Quelques-uns de ses dessins ont été conservés. La petite Marie Signe, du haut de ses 4 ans, pourrait bien avoir inspiré le Petit Prince. Tout comme chaque enfant que Saint-Ex a croisé, dis-je, histoire d'ajouter un peu de mystère. Nous survolons toujours l'archipel. Je reste étrangement inquiet. Mais la conversation a masqué mon stress. Du moins, je le crois. Pourquoi êtes-vous nerveux comme ça ? Andy insiste, la chipie. Pourquoi vous n'arrêtez pas de regarder en bas ? Vaincu, confus, je désigne les îles au-dessus de nous. On passe au-dessus du triangle des Bermudes.